Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième édition en direct de Radio Foot.
Les dernières secondes, le ballon de Sissoko vers Llorente, c'est maintenant ou jamais Tottenham. Dele Alli vers Lucas.
Non, c'est pas possible. C'est pas vrai ce qu'il a fait Lucas.
Il l'a
fait. C'est lui qui les envoie en finale.
Le héros,
c'est dingue.
Le héros s'appelle Lucas Moura. C'est insensé. Cette Ligue des Champions est irréelle. Ils l'ont fait.
L'exploit des Spurs, cette compétition va nous rendre tous cardiaques, fous, surtout cette édition 2018-2019. On va en reparler de la qualité du spectacle proposé. L'exploit des Spurs, disais-je, le triplé de Lucas Moura, le but de la qualif inscrit, vous venez de l'entendre dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, 95e, 96e minute, après l'haletant surprenant, l'emballant Liverpool-Barcelone d'hier soir et sa remontada de légende, la deuxième demi ce soir Ajax-Tottenham et une autre remontada et un autre football total. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle a aussi été au rendez-vous, une mi-temps dans un sens, la deuxième dans l'autre, mais au final inqualifié, Tottenham pour une finale qui sera donc 100% anglaise. Pour analyser cette rencontre, cette finale à venir, un casting de feu évidemment, des gars qui voient 15 matchs par week-end, chacun pour lesquels même le championnat indonésien n'a pas de secret, le noctambule Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour, bonsoir Lionel.
Ouais, moi c'est Olivier.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Et vous, c'est on arrête maintenant avec le téléphone. C'est un avertissement, il n'y en aura pas d'autre. Le routard Naïm Meunier.
Salut Olivier, salut à tous.
Ouais, moi c'est Olivier, lui il me connaît. Ouais. Et puis, parce qu'il est aimable, poli, bien coiffé, voire drôle, le jeune Martin Guez est aussi là.
Ah, il faudrait que je vienne tous les soirs, des remontadas à chaque fois. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Et avec vous, messieurs, nous nous projetterons bien sûr sur la finale du 1er juin au Wanda Metropolitano de Madrid. Liverpool-Tottenham, surprenante affiche, la première sans clubs espagnols depuis le Bayern Dortmund. C'était déjà du 100% allemand, cette fois en 2013. 6 ans donc que l'on n'avait plus vu une finale sans Ronaldo ni Messi. Pas sûr qu'il nous manque beaucoup, vu la qualité de jeu de cette édition 2018-2019. Si le temps le permet, nous nous projetterons aussi sur les demi-finales de la Ligue Europa de ce jeudi. Chelsea-Francfort, un partout à l'aller en Allemagne. Valence-Arsenal, 3-1 pour les Gunners chez eux à l'Emirates. Ça sent bon, une autre finale 100% anglaise, 100% première ligue dans cette C2. Dans le dernier quart d'heure de cette émission, nous parlerons Ligue des Champions encore, si emballante, et pourtant on veut nous la changer à l'horizon 2024 et on n'a pas fini d'en parler. Hier à Madrid, beaucoup de dirigeants de clubs se sont réunis pour en parler justement de cette réforme. Pierre Chaperon les a écoutés et il sera là dans 30 minutes pour nous en parler. Allez, la fine équipe est en place. Salerno, Finzel, titulaire, niveau Ligue des Champions, je l'annonce, et pas réformé eux.
Et premier corner pour la Sechen.
Allez, ils ont des arguments dans l'axe pour jouer ces ballons de la tête.
En tout cas, parfaitement. Commande de mec, quel ballon chippé. Et là, ça peut faire mal.
Côté gauche.
Tadic avec Ziyech.
Oh, il a mis au fond. Quelle action.
Hakim Ziyech. Oh, ça sent bon la finale. L'Ajax Amsterdam, tout proche de réaliser son rêve. 2-0.
Il faut aller au bout.
Et oui, Lucas.
Quel contre. Ça revient encore sur Lucas.
Oh, il l'a mis.
C'est fou.
C'est dingue.
Incroyable. Lucas. Ce match bascule de nouveau. Cette Ligue des Champions est surréaliste. De partout. Dernière seconde. Le ballon de Sissoko. Vers Llorente, c'est maintenant ou jamais Tottenham. Dele Alli vers Lucas.
Non, c'est pas possible.
Lucas,
c'est pas vrai ce qu'il a fait Lucas.
Il l'a
c'est
fait.
Lui qui les envoie en finale.
Le héros,
c'est dingue.
Le héros s'appelle Lucas Moura. C'est insensé. Cette Ligue des Champions est irréelle. Ils l'ont fait. Ils ont remonté deux buts de retard. Tottenham a éteint la Johan Cruyff Arena. Tottenham est en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Hallucinant!
Incroyable, incroyable scénario, tout ça mis en musique notamment par Laurent Salerno sur une suggestion de David Finzel, l'homme du rock'n'roll, les Sex Pistols, mesdames, messieurs, la version moderne, plus musclée de God Save the Queen, c'est de circonstance avec cette finale 100% anglaise. Ça vous inspire quoi, mon cher
Ça m'inspire que je me disais en arrivant que ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait des débats pour nous expliquer que est-ce que la Première Ligue épuise les équipes anglaises en Coupe d'Europe. Et je me dis que là, vous venez de me dire qu'il y a deux équipes anglaises en finale de la Ligue des Champions et peut-être, on verra ça demain en Europa League, mais deux équipes qui sont en tout cas en ballottage favorable avec Chelsea et Arsenal qui pourraient également être en finale de l'Europa League, ce qui nous donnerait, si ça devait arriver, 4 équipes anglaises sur les deux finales des deux compétitions continentales. Donc ce que ça m'inspire, c'est que le meilleur championnat au monde actuellement, c'est la Première Ligue.
C'est clair qu'on a, on est très bien parti. On en reparlera peut-être de la Ligue Europa, mais pour avoir deux finales 100% anglaises, je suis pas sûr que ça soit déjà vu. Je me souviens d'avoir vu trois clubs de Liga en finale de deux Coupes d'Europe. Est-ce qu'on a eu déjà deux clubs anglais en finale de Ligue des Champions? Je ne le sais
2008,
pas en tout cas.
Il n'y a pas eu Manchester United.
Ah, Chelsea, Manchester United, bien sûr.
Avec Cristiano Ronaldo.
Ouais. J'espère qu'on n'ira pas au tir au but, à moins qu'il y ait 3-3 à l'issue du temps réglementaire et 5-5 à l'issue de la prolongation. Mais
c'est pas le scénario de la compétition, mais on verra bien.
On rappelle, 5e minute, but de Delirte de la tête, 36e but de Ziyech sur une passe décisive de Tadic, 2-0, et la finale est dans la poche. Mmh. Évidemment, bien sûr, mais non. Cette Ligue des Champions 2018-2019, elle est dingo. Que des gens qui mangent des guêpes. 55e, Lucas contre Stratosphérique. 59e, Lucas, cafouillage dans la surface. Après parade de Nana, on se demande encore comment Lucas a pu récupérer le ballon et marquer. Et 95e, 96e, Lucas encore. Comme quoi, pour briller en C1, faut quitter le PSG.
C'est un peu ça. Non, mais c'est une très bonne réflexion ce que vous avez. Et c'est surtout incroyable. C'est que sur les deux tiers de la saison, on s'est dit à un moment donné, Tottenham c'est bien gentil, mais si vous retirez Harry Kane, il y a personne. Bah, vous prenez leur dynamique en championnat quand Kane s'est blessé la première fois, Son est devenu l'attaquant le plus décisif d'Europe, il mettait but sur but, et vous regardez en Ligue des Champions, c'est Llorente qui donne la qualif contre City, c'est Lucas qui donne la qualif contre l'Ajax. Ça veut dire qu'il y a quand même, pour une équipe qui n'a pas recruté sur les deux derniers mercato, il y a quand même un réservoir de joueurs et un entraîneur qui sait faire tourner suffisamment pour avoir une équipe qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, pas se caler sur le podium, en tout cas dans le Big Four, et une équipe qui va faire la Ligue des Champions. Bravo Tottenham.
Et vous savez pourquoi on invite Martin Guez? Parce que pour parler, il lève le doigt, comme à l'école.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Naïm en termes de dynamique. On pouvait pas non plus prévoir que Tottenham allait le faire parce qu'ils avaient perdu 5 de leurs 6 derniers matchs.
Mais on pouvait dans cette édition.
Ils avaient perdu 5 de leurs 6 derniers matchs et si on regardait les 15 derniers matchs, il y avait quand même 9 défaites. Donc là, on pensait vraiment qu'ils étaient
sur 8 défaites
très
sur leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues à l'extérieur. Vous avez raison. Qui l'eût cru, Martin? Mais vous qui êtes le plus jeune de cette affaire, vous vivez quand même
en tout cas
une super Ligue des Champions.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose pareil. C'est vrai qu'on était habitué.
Des demi-finales aussi emballantes après des quarts qu'il était déjà.
C'était dingue et même.
Non mais qui l'eût cru, on peut vous répondre, Olivier. C'est comme Liverpool hier. Les joueurs, leur entraîneur, ils ont pas lâché, ils ont été jusqu'au bout. Au bout du bout, encore le finish est encore plus haletant sur ce match que celui d'hier qui était déjà fantastique. Ils ont cru en leur histoire, ils ont cru en leur destin. Et effectivement, l'handicap était peut-être moins important à relever puisque n'avait perdu 15-0 à l'extérieur, mais cette remontada en cours de match, cette remontada signée Lucas Moura, vous parliez d'un ancien entraîneur, joueur du Paris Saint-Germain, ça va rester dans les annales. C'est un exploit qu'ils ont réalisé ce soir. Vous parliez de Paris Saint-Germain, mais ils ont aussi un entraîneur qui est passé par le Paris Saint-Germain en tant que joueur, Pochettino, qui est un manager absolument exceptionnel et qui lui optimise au maximum les moyens qui lui sont donnés. Alors, c'est pas un club pauvre, loin de là, Tottenham, mais c'est pas un club qui fait des folies chaque été.
Non, ouais, c'est qui a quand même eu les moyens de se faire construire un très très beau stade.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce soit sur cette demi-finale ou celle d'hier, tu te rends compte que tu peux avoir les meilleurs joueurs, tu peux avoir le meilleur effectif, tu peux être plus frais physiquement. À ce niveau, ça se joue aussi dans la tête, et j'ai presque envie de dire surtout dans la tête. Et quand on voit par exemple les éliminations du PSG, que ce soit il y a 2 ans ou cette saison, tu te rends compte que le talent, ils l'ont, les joueurs, enfin, ils l'ont.
Les éliminations du PSG, chaque saison, se passe dans la tête.
Sur les scénarios un peu catastrophes, les joueurs, ils l'ont, le talent, ils l'ont, mais c'est dans la tête que ça joue, ils sont pas prêts. Tu vois aujourd'hui Tottenham, tu vois hier Liverpool. Barcelone peut passer, l'Ajax peut passer, il n'y a pas un écart de jeu entre eux, mais dans la tête, c'est les plus forts. Et en fait, si tu prends la demi-finale d'hier, la demi-finale d'aujourd'hui, c'est les plus forts dans la tête qu'on gagnait, pas forcément les plus forts sur le terrain. C'est ça qui est
beau aussi. À la mi-temps, parce qu'on l'a dit, une mi-temps dans chaque camp, 2-0 à la mi-temps, faut marquer 3 buts. Alors, il faut marquer 3 buts, en même temps, on l'a dit cet après-midi, on l'avait dit ces derniers jours, on savait cet Ajax friable à domicile. Ben, on se souvient du 3-3 en phase de poule face au Bayern, on se souvient de la
face au Real,
la défaite face au Real, fait 2-1 et le nul 1-1.
Bah,
qu'il ne gagnait pas et qu'il prenait des buts.
Je vais te mettre une date. La dernière victoire à domicile de l'Ajax en Ligue des Champions, c'est le 23 octobre contre Benfica. Tout simplement.
C'était la seule victoire cette saison, finalement, à domicile.
Non, il y a eu l'AEK Athènes aussi.
Il y a eu l'AEK Athènes, mais c'était
première
pas
journée.
Avant.
Mais
voilà, on les savait friables. Ils ont craqué. On le disait aussi en milieu d'après-midi, lors de la première édition de ce Radio Foot en direct. Est-ce que la jeunesse ne va pas finir par les rattraper, le manque d'expérience? Est-ce qu'ils n'ont pas manqué un peu d'expérience?
Non.
Ils ont manqué surtout d'efficacité en fin de match, parce qu'ils ont eu des situations.
Sur le poteau de
Ziyech. Il y a eu Ziyech qui a eu une ou deux.
Le choix de Tadic à répétition.
Une parade de Lloris.
Je pense que les stockades, ils auraient pu la porter, ils ne l'ont pas porté. Ouais. Et ils sont restés fébriles et vulnérables, on l'a vu. Et puis surtout cette équipe. Enfin, surtout ce qui a changé le match pour moi, Olivier, moi il y a un changement. Hier, il y a eu un changement. Wanyama, il n'avait rien à faire. C'était un joueur qui n'avait pas de niveau sur ce match-là. Je ne veux pas manquer de respect à l'international kényan, mais il a du volume de jeu. Mais techniquement, il n'était pas au diapason de ses adversaires. Le réajustement tactique et le changement de Wanyama a pour moi été un des facteurs qui expliquent aussi
remplacé par l'URNT,
qui explique le retour en grâce entre guillemets de Tottenham sur cette deuxième mi-temps. Après, il y a aussi du talent de l'autre côté. C'est vrai qu'on parle du collectif bien rodé, bien huilé qui surprend toute l'Europe, mais enfin du côté de Tottenham, t'as quand même quelques joueurs de ballon. Alors c'est vrai que Kane n'était pas là, mais bon, Eriksen absent en première mi-temps, en deuxième mi-temps il commence à donner des bons ballons. Dele Alli qui dévie.
Qu'on n'a pas vu en première mi-temps non plus.
C'est un peu le problème.
Il y a quelques joueurs référencés, je veux dire, c'est pas une équipe faible.
C'est en première mi-temps, en fait, le souci là, c'est que les occasions, les ont aussi en première mi-temps. Onana, il fait un à deux arrêts.
Son fait
un poteau. Le problème, c'est qu'en première mi-temps, le joueur que vous voyez le plus à Tottenham, c'est Sissoko. Alors, c'est un super joueur, il a un très gros volume de jeu, il a fait une super demi-finale aller-retour, mais c'est pas son rôle, c'est pas un meneur de jeu, c'est pas lui qui doit avoir le ballon. C'est justement Dele Alli et Eriksen qui doivent jouer ça. Mais l'équipe, elle a été coupée en deux. En deuxième mi-temps, quand on a commencé à voir Eriksen et Dele Alli remettre le pied sur le ballon, refaire monter le bloc, on a eu toutes les situations. Et là, bizarrement, l'efficacité, elle a été au rendez-vous. Vous ne mettez pas 3 buts en 45 minutes quand vous n'avez pas d'efficacité. Alors, c'est vraiment que vous avez un peu de chance. Là, sur la première mi-temps et sur la deuxième, la différence, c'est tellement incroyable que ça ne peut pas être une coïncidence.
On a quand même senti, dès le premier but de Lucas, à la 54e, que les mouches avaient changé d'âne.
Le momentum, comme on dit dans le basket, c'est sûr qu'on sent que là, à ce moment-là, là, vous avez raison, parce que peut-être...
Tout d'un coup, il y avait la confiance, on sentait que Tottenham pouvait
ça pouvait basculer. Et puis surtout, on a tous dans l'esprit ce qui se passe sur cette Ligue des Champions, des retournements de situation.
Et eux aussi, ils le savent.
Bien sûr, ils le savent que ça n'arrête pas de basculer dans un sens comme dans un autre. Mais alors peut-être que là, vous avez raison Olivier, peut-être qu'à ce moment-là, ils ont peut-être manqué un peu d'expérience. Certains joueurs, notamment Sean qui est sorti après le deuxième but, si je ne dis pas de bêtises, qui était concerné. Ouais, mais lui, c'est un trentenaire, c'est un des joueurs en règle générale.
Lui est blind.
Qui régule pas mal cette équipe. Mais après, il y a l'intensité, l'impact qu'a mis Tottenham, l'envie et, également. Et puis, lors du match aller, ce qu'on a oublié de dire, c'est que Tottenham avait quand même, en termes d'impact physique, bousculer cette équipe de l'Ajax plus que la Juventus de Turin, par exemple.
Comme toutes les équipes qui savent jouer au ballon et qui ont d'énormes qualités techniques au-dessus de la moyenne, l'Ajax, c'est pas une équipe qui est faite pour calculer, pour gérer. Des garçons comme De Jong, comme Ziyech, comme Tadic, c'est pas des garçons qui sont faits pour rester au milieu, se faire des passes, gérer, endormir, être malin. Eux, ils savent trop bien jouer au foot pour faire ça. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils aient la balle, il faut qu'ils aient des occasions.
Et
à 2-2, tu as 10 minutes où ils se remettent à jouer, où ils se remettent à aller de l'avant, où ils ont des occasions, où ils se mettent à centrer, où ils se mettent à combiner, là, t'es pas loin d'un 3-2 pour l'Ajax. Et t'as une grosse parade de Lloris, justement, à la 91 ou 92e. Mais à partir du moment où ils l'avaient fait au match aller, après le premier but, après le but de Van de Beek, d'ailleurs, ils ont arrêté de jouer, ils sont mis à calculer, ils sont passés par là à la correctionnelle. Deux fois de suite, ça marche pas.
Martin?
Oui, juste, tu disais qu'ils étaient passés à côté de la correctionnelle, mais hier, on parlait, par exemple, du raté de Dembélé, qui aurait pu donner 4-0
tout à fait,
au Barça.
Ouais.
Eux, ils vont peut-être regretter le poteau de Neres en toute fin de match,
qui aurait pu leur donner 2-0.
Ils ont dit qu'ils avaient eu beaucoup d'occasions.
Après, Son, il touche le poteau aussi en première mi-temps.
Il y a une barre.
Et Llorente
met une tête sur la barre, touchée par Onana.
C'est comme un film de Jean-Claude Van Damme
dans
les années 80-90. C'était coup pour coup, là.
On n'a pas la même filmographie, a priori, la même culture cinématographique. Je vous laisse avec vos Jean-Claude Van Damme.
Restez aware.
L'homme du match, Lucas, évidemment.
Bah ouais.
Sur
Lucas
le scénario
du siècle, hein, comme c'est titré un peu partout.
Oh, oh bravo.
Non, alors, il a pas gagné. Moura. Non mais il a pas gagné le match, mais rendons hommage à Onana qui a été monstrueux, qui a fait des parades, qui a été décisif, que moi j'ai vu haranguer sa défense à 2-2, qui s'est conduit comme un taulier. Alors il prend 3 buts, c'est vrai, il y a une ou deux sorties aériennes qui laissent un peu. Qui pose des questions, et moi je trouve que sur ce match il est monstrueux.
Puis surtout, il n'est pas récompensé sur le deuxième but.
Ouais, ouais, ouais.
Lucas, Camerounais, on le verra à la CAN, ouais, ouais. On le verra défendre.
Qui était déjà,
champion d'Afrique en titre,
et qui était déjà le gardien de l'Ajax en 2017 en finale aussi, de Ligue Europa.
Et Loris de l'autre côté, qui a pour moi été aussi déterminant et décisif sur ce match. Et avec la réussite des grands gardiens, les poteaux, ce n'est pas non plus un hasard totalement, puisque de toute façon, il est souvent sur les trajectoires.
Mais Chérif Guémour a dit dans la première version de cette émission, cet après-midi, qu'il était pour lui, je précise bien pour lui, pour certains de nos auditeurs que ça a agacé sur les réseaux sociaux, bonjour à vous, qu'il était sans doute le meilleur gardien du monde actuellement.
Ouais, non, bah, j'irai pas jusqu'à là, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'a pas non plus la meilleure défense devant lui, donc ça met aussi un peu en relief et en perspective ses qualités. C'est sûr que quand t'es au Black et t'as Diego Godin devant toi, parfois c'est plus facile quand tu joues bloc bas, quoi.
Non mais c'est sur un match comme ça, des hommes du match, t'en as 10, parce qu'on va retenir Lloris et Onana parce qu'ils font des arrêts, Lucas parce qu'il marque 3 buts, Danny Rose sur ce match c'est un tueur, il est monstrueux, Moussa Sissoko il fait une première mi-temps, il met tout le monde dans sa
quel
poche,
quel volume physique.
Donc Ziyech il est pas récompensé, mais Ziyech il fait un match terrible, je pense que c'est son meilleur match,
ouais,
au
mais
moins
on va retenir les occasions.
Bien sûr.
Parce qu'il peut être le super-héros. Ouais.
Il marque et c'est plié.
Sur les matchs élimination directe, il a fait son meilleur match là. C'est pas contre le Real, c'est là. Donc voilà, des hommes du match. C'est aussi ce qui fait que cette finale est merveilleuse, c'est que les individualités ont été au niveau, toutes.
Monsieur Guez.
Oui, juste pour rebondir sur Ziyech, c'est 3 buts et 2 passes décisives sur la phase de poule avec des champions. C'est donc 5 buts sur lesquels il est impliqué. Il n'y a que Messi qui a fait mieux. Et une autre petite statistique pour rebondir sur Lucas. On parlait hier de Divo Origi, ce qui rend peut-être aussi cette Ligue des Champions exceptionnelle. C'est que c'est des joueurs qu'on n'attend pas forcément qui se subliment. Oui, bah, Lucas, il n'avait jamais marqué dans des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il n'avait surtout jamais marqué de doublé dans cette compétition et encore moins de triplé. Donc voilà, premier triplé pour lui. Il avait déjà marqué un triplé en première ligue contre Huddersfield, mais pas ce niveau-là.
Je pense que d'abord des demi-finales de Ligue des Champions avec le PSG, on n'a pas connu. Puis c'est surtout que
le PSG
n'en
a pas connu non plus. Avec 0 but, donc il a inscrit 3 fois plus de buts que le Paris Saint-Germain en finale.
Mais Lucas, c'était juste aucun but en phase à élimination.
C'est surtout la première fois qu'il est autant utilisé dans des matchs importants, Lucas, parce que soit Tottenham n'allait pas aussi loin, soit il n'était pas utilisé. Là, la blessure de Kane, ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit pour lui, que ce soit pour l'URNT au tour précédent. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, il rentre dans l'histoire du club. Hein. On peut me dire
Imaginez le casse-tête pour Pochettino dans 3 semaines parce que Kane va revenir. Kane, c'est pas. Comment il va gérer là? Il va sortir Lucas? Lucas?
Kane, c'est son capitaine quand même.
Ouais, non, mais je pose la question. Il vient de faire un truc incroyable.
Puisque nous parlons de Lucas, je vous propose, messieurs, d'écouter Eriksen nous parler du triple buteur du jour qui est actuellement d'ailleurs avec nos confrères d'RMC Sport. Mais nous, on écoute Eriksen.
Oui, on a gagné ce match vraiment grâce à Lucas Moura. Ça a été un ascenseur émotionnel cette saison. Et puis maintenant d'arriver en finale, voilà, ça fait bien héros. J'espère qu'on lui fera une statue.
Formé à l'Ajax, en cœur, disent en cœur nos consultants, Christian Eriksen, donc formé à l'Ajax et qui nous disait tout le bien qu'il pensait évidemment de Lucas Moura, tout heureux de marquer ce triplé qui envoie, on vous le rappelle, eh bien Tottenham en finale. Bon, on était un certain nombre à rêver quand même, soyons honnêtes, d'une finale Liverpool-Ajax qui aurait senti bon les années 70. Il y avait 4 titres d'un côté, 5 de l'autre. C'était quelque chose d'attendu, d'espéré, parce que ces deux équipes-là, Liverpool et l'Ajax, nous avaient tellement enchantés ces dernières semaines, surtout cette jeune génération de l'Ajax. On sait que cette équipe, elle va exploser dans tous les sens dans quelques semaines et qu'elle ne ressemblera plus du tout la saison prochaine à ce qu'elle a été et comme elle nous a emballés. Donc on vient de rendre hommage à Tottenham. Parlons un peu de cet Ajax, de cette petite déception qui nous anime un peu. C'est vrai qu'on espère voir un Tottenham à ce niveau en finale, mais les finales entre équipes d'un même pays ont rarement été en balance. Donc,
C'est un Tottenham d'émotion plus que de jeu, même s'il y a des principes de jeu à retenir. Mais l'Ajax, on avait tout, en fait. On avait le package total. C'est rafraîchissant, il y a de l'insouciance, il y a des émotions, il y a des jeux.
Ça nous rappelle le bon souvenir.
Et puis c'est un peu comme Christophe Colomb, on découvrait l'Amérique, même si ici il y a des puristes, mais c'est aussi des joueurs pas forcément tous référencés à très haut niveau, des jeunes joueurs.
Surtout.
Après Ziyech, nous on suit l'Afrique, on suit la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires, évidemment qu'on le connaissait. Mais pour le grand, grand, grand public, Hakim Ziyech, ça reste un inconnu. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est aussi ça, l'Ajax. Mais moi, je me pose quand même la question, alors, peut-être que je dis des bêtises et tout, c'est vrai que il faut aussi garder les pieds sur terre. Je me demande si, un peu dans ces dernières semaines, ces joueurs qui ont été surexposés, je suis sûr que les téléphones ont sonné dans tous les sens, promis à des grands clubs. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui a fait que Lucas Moura...
Non, mais ça a pu,
mais
c'est un élément.
Quand même, on sait comment ça se passe.
Ça pèse, oui.
Les environnements, parfois, ça peut également peser et interférer dans la concentration des joueurs. Mais je ne dis pas que c'est ça, mais... Je me pose la question.
On est passé pas loin avec un Liverpool-Ajax d'une finale peut-être la plus africaine de l'histoire de la Ligue des Champions.
Ouais,
parce que là, il y avait un paquet de joueurs du continent, du Marocain, du Camerounais, on l'a dit.
Mazraoui, Ziyech, Onana Marocain, d'un côté.
Onana Camerounais.
Et de l'autre, Matip,
qui veut pas les jouer, mais
Sané, Keita. Non, mais l'Ajax.
Keita est blessé, mais bon, voilà, on aurait eu.
Au moins 6.
L'Ajax a fait l'adhésion de l'opinion publique parce que d'abord il y a un phénomène d'identification, c'est les petits jeunes, machin, c'est frais, c'est rafraîchissant, on l'a dit, mais c'est surtout que par rapport à ce, nous on a une image de la Ligue des Champions en France ou du PSG, c'est-à-dire une grosse machine avec de très grands joueurs, très riches, très puissants financièrement, qui n'y arrivent pas. Et là tu as une équipe qui débarque avec des joueurs sans expérience d'un
plus
championnat
petit budget des quarts de finaliste.
D'un championnat mineur, parce que le championnat hollandais est vraiment un championnat mineur, plus mineur que la Ligue 1. Une équipe qui sort des barrages, qui en plus ne fait pas de Coupe d'Europe tous les ans, parce que depuis 3 ans que la Ligue Europa, on voit l'Ajax, mais c'est une équipe qui fait moins de Coupe d'Europe que le PSG, par exemple,
au
quotidien.
Et qui, avec la réforme annoncée en 2024, en France,
et qui, voilà, et qui, mais c'est justement, tu vois, le contexte a fait qu'on s'est tous un petit peu accrochés à cette équipe qui ne ressemblait à rien à ce qu'on nous montrait habituellement, c'est-à-dire le Barça de Messi avec les gros salaires, le Real de Ronaldo avec les gros salaires, le PSG, machin. Voilà pourquoi c'était rafraîchissant et pourquoi on s'attachait aussi à cette équipe.
Depuis le 13 février, c'est-à-dire 3 mois, et une défaite à domicile, face au Real Madrid, l'Ajax avait disputé 16 matchs, 14 victoires, 1 nul et une défaite face à Alkmaar en championnat. Ouais. C'était quand même quelque chose. Ils étaient en course pour un triplé historique, le premier triplé depuis 1972. Dimanche, ils ont gagné la coupe très facilement. Est-ce que ça aussi n'a pas joué dans les têtes? Ils sont à la lutte avec le PSV à 2 journées de la fin, même nombre de points pour être champion. Et donc, ils sont éliminés de la Ligue des Champions 2018-2019. Juste, ils sont éliminés par qui? On en a beaucoup parlé, par Lucas Moura. Je vous ai dit qu'on le voyait tout à l'heure à la télé. On va l'écouter maintenant.
Impossible d'expliquer ces moments. C'est les moments qu'on cherche, que tous les joueurs cherchent. Depuis que j'étais petit, j'avais le rêve de jouer la Champions League, de gagner la Champions League. Et maintenant, j'ai l'opportunité de jouer la finale. Je suis très, très content. Je suis très fier de mon équipe. J'ai toujours cru que ce moment allait arriver. Là, il faut profiter. Il faut profiter. Je suis très, très content. C'est impossible d'expliquer l'émotion.
C'est marrant, il est sympa hein, parce qu'il pourrait très bien dire j'ai bien fait de quitter le PSG parce que
non, c'est pas son
là
style.
Au moins je suis sûr de gagner.
C'est pas son style, c'est un mec plutôt agréable.
Bien sûr, amitié à tous les joueurs du PSG qui sont à l'écoute, hein, bien sûr. Neymar en particulier qui doit se dire il y aura au moins un Brésilien en finale. Voilà, vous vouliez dire quelque chose, je crois, Nabil, avant que l'on écoute Lucas Moura.
En fait, je dois vous avouer que je m'en souviens plus.
Bravo. C'est pour ça qu'on vous réinvitera plus. Si on parlait de la finale maintenant, messieurs, je vous propose d'écouter ça, tiens. C'est quoi donc, David Gélit?
Non, mais vous posiez la question de savoir comment on peut expliquer ce qui s'est passé, mais parfois il n'y a pas forcément d'explication. Je veux dire, pour moi, je vois deux choses. Je vois effectivement l'Ajax qui a joué à contre-nature en deuxième mi-temps, mais la frappe de Ziyech sur le poteau, c'est qu'une affaire de centimètres.
Vous
en fait.
Prenez pour Carlos Bianchi?
Non.
Non, parce que vous êtes en train de parler de quelque chose dont on vient de prendre congé, on voudrait parler de la finale maintenant.
D'accord.
Ouh là là, ce Napil Tchelit. Qu'est-ce que c'était donc?
L'Ajax me lessive, mon cher.
C'était. Mon cher Olivier. C'est la deuxième fois de la journée qu'on l'entend avec un deuxième consultant, on va encore se faire insulter. c'était évidemment Big Ben. Est-ce qu'elle est refaite complètement? Je sais pas. Ces derniers temps, elle était en travaux. Big Ben, évidemment, puisque cette finale, on l'a dit, sera 100% anglaise le 1er juin au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético, Tottenham, Liverpool. Première finale pour les Spurs, Liverpool, ce sera la 9e, l'expérience est là, il y a 5 titres déjà du côté de Liverpool, 77, 78, 81, 84, 2005, à quel spectacle faut-il s'attendre? On l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, les finales entre pays, entre clubs d'un même pays, c'est rarement très sexy.
C'est rarement très sexy, après il y a quand même un contexte qui fait que si vous prenez ce qui se passe actuellement en Premier League, Liverpool va très certainement perdre le titre avec une défaite et 97 points, c'est-à-dire avec un énorme coup psychologique.
Ça
Tottenham,
joue ce week-end, hein.
Tottenham qui était quand même quasiment assuré il y a encore quelques semaines d'être troisième de Première Ligue, s'est fait shipper la place par Chelsea. Alors il sera en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que vous parliez il y a quelques minutes de la dynamique en championnat. Je pense qu'au-delà du titre de champion d'Europe, qui est le titre majeur aujourd'hui, peut-être même au-dessus d'une Coupe du Monde, alors peut-être pas symboliquement, mais au moins sur le niveau de jeu, la Ligue des Champions, je pense qu'il n'y a plus au-dessus aujourd'hui en termes de niveau. Au-delà du titre en lui-même, ce que psychologiquement ça peut rapporter à ces deux équipes qui ont quand même vécu des saisons, c'était des montagnes russes de tous les côtés, je pense qu'on peut assister à un match assez fou parce que Pochettino, ça fait quelques années qu'on nous annonce qu'il va s'en aller, et vu la qualité de ce manager, je serais surpris qu'il reste encore très longtemps. Cette équipe, elle est absolument folle, elle a pas recruté depuis 3 mercato, il y a des histoires invraisemblables, on part de Lucas Moura, mais Jürgen Klopp, 3e finale en 4 ans. Vous rendez compte,
il a perdu
celle avec Dortmund, il a perdu les deux premières avec Liverpool. À un moment donné, il va pas en jouer tous les ans non plus, donc pour lui, ça va aussi énormément compter. Donc le contexte va faire que cette finale peut être explosive. Après, on sait que ça peut être, on attend des matchs absolument fini, fermé, des 3-0 et on a des 4-0 et puis on peut s'attendre à un match de fou et avoir une purge. Hein. Mais sur le papier, ça s'annonce quand même grandiose.
Liverpool favori, Nabil ?
Oui, favori, parce que c'est le dernier finaliste et puis c'est une équipe qui réussit une saison absolument remarquable et qui, je pense, est plus outillée, même en termes de talent, au milieu de terrain, c'est plus fort à Liverpool que du côté de Tottenham. Il y a peu de backup, excusez-moi l'expression, du côté de Tottenham. La densité du banc, elle est pas incroyable. Maintenant, deux clubs.
Harry Kane sera de retour.
Donc ça sera un casse-tête quand même pour Pochettino. Il a 3 semaines pour expliquer à Lucas Moura éventuellement qu'il jouera pas. Mais ça, c'est un autre débat. Mais
ou qui marquera un triplé une fois après être rentré
exactement.
À la 70e.
Après, c'est deux adversaires qui se connaissent parfaitement. Parfois, il y a un nivellement des valeurs quand vous êtes du même championnat. Le bon exemple, c'est Manchester City Tottenham. Ça se ressemble quelque part. Je veux dire, dans la réalité des rapports de force, City était favori, mais on a vu les ressources mentales de cette équipe de Tottenham. Et Tottenham, ils ont leur projet de jeu, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ils le font au mieux, ils jouent sur leur qualité. Et jusqu'à présent, ça a plutôt réussi. Et rien ne nous dit que ce n'est pas l'année. Vu le scénario complètement improbable de cette Ligue des Champions, eh ben, ça correspondrait davantage que ça soit Tottenham qui remporte cette Ligue des Champions que Liverpool, qui est en fait aujourd'hui une des 5 ou 6 meilleures équipes européennes depuis quelques années.
Tottenham, c'est énorme. On rappelle que jusqu'ici, le seul fait d'armes, c'était une demi-finale en 1962 pour les Spurs.
Et puis Tottenham, ils ont une culture.
L'année où ils inaugurent leur stade, en plus.
Puis c'est quand même une Ligue des Champions absolument folle pour eux. Ils étaient derniers de leur poule à la fin des matchs aller avec un point. Ils s'en sortent dans une poule. T'avais l'Inter et le Barça. Le match, le quart de finale contre le Manchester City avec le but de Sterling refusé à la dernière minute qui fait polémique et qui fera polémique dans encore 50 ans. Le triplé de Lucas Moura qui était absolument improbable. Donc, à peu près tout va en faveur de Tottenham cette saison. Quoi qu'il arrive, en tout cas en Ligue des Champions, c'est à peu près tout qui va dans leur sens. Donc, étant donné que Liverpool est effectivement favori parce qu'il est le meilleur effectif, mais que Tottenham a quand même 3-4 faits majeurs en son sens sur cette Ligue des Champions, c'est très équilibré en fait.
Je vous sens bien sage, Martin Guez, et pourtant.
Non, je me souvenais l'an dernier de Tottenham qu'on avait déjà regardé, qu'on voyait déjà sur une phase ascendante. Ils avaient battu le Real Madrid en phase de poule 3-1. On les avait vus très bons contre la Juve en 8e, ils avaient fini par se faire sortir. Mais c'est vrai que cette année, on les sentait beaucoup moins bien. On s'était dit que sans recruter à l'intersaison, ça allait être compliqué. C'est vrai que toute l'année, on les a vus faire des montagnes russes. Moi, je me souviens qu'on avait beaucoup parlé au moment du Boxing Day, ils mettaient des 6-2, ils mettaient un nombre de buts incroyable, puis après ils étaient redescendus dans un creux, donc on sait jamais à quoi s'attendre.
Ils restaient sur 3 défaites de rang, là, on le rappelle. Ils devraient sécuriser leur place en Ligue des Champions la saison prochaine, être dans les 4 premiers, mais ça coinçait un peu ces dernières semaines.
Ils perdent contre Bournemouth en prenant deux cartons rouges, enfin, on sentait pas une grande maîtrise, on sentait pas sur la pente ascendante, et pourtant c'est bien ok.
C'est marrant,
en finale.
Avec cette défaite à 9 contre 11 le week-end dernier, on pensait même qu'ils seraient fatigués parce qu'ils avaient dû débauché beaucoup d'énergie. J'en profite pour dire que le dénouement de la Première Ligue, bien sûr, c'est à suivre. Ce sera à suivre ce week-end dans Mondial Sport, 21h30, temps universel, samedi et dimanche. Est-ce que c'est d'ores et déjà la plus belle Ligue des Champions de l'histoire? Ça commence à circuler sur les réseaux sociaux.
La plus surprenante.
J'ai vu les avis des uns et des autres. Alors c'est vrai que c'est difficile de comparer les époques et tout ça. Ouais. Laissez-moi finir. Non. Juste difficile de comparer les époques, le nombre de buts, le style de jeu. Mais c'est quand même la plus emballante depuis longtemps.
Oui. La plus contre-révolutionnaire presque, quelque part, si je peux me permettre. Si vous me demandez si elle est la plus belle, bon, dans la culture de l'instant, c'est difficile de dire. Il faudrait regarder un peu, prendre son temps avec un peu de recul. Mais la plus surprenante, on n'en est pas loin quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, parce que t'as le PSG, t'as le PSG qui est sorti par Manchester, des lycéens et des joueurs avec des noms de médicaments. T'as Manchester City, Tottenham qui fradate. Tu as ce match
le
encore.
Barça, voilà, le sorti, Liban, voilà. La Juve, grande favorite sortie, le Real
sorti en 8e, le Bayern sorti en 8e, l'Atlético sorti en 8e. Donc t'as quand même eu d'entrée des gros
3 euros de la Juve
qui sont passés à la trappe, et puis t'as eu des histoires complètement folles. Donc oui, je pense que sur le scénario des matchs et sur le profil des équipes qu'on retrouve en finale pour Tottenham et dans le dernier carré avec l'Ajax, oui, certainement au moins la plus surprenante et peut-être la plus belle. Quoi.
Sur Facebook, Christophe Carmarance, jeune retraité de la maison RFI, ancien correspondant pendant des dizaines d'années de l'équipe, le journal L'Équipe aux États-Unis, nous dit « Je suis la Ligue des Champions depuis 1969, c'est pour moi la plus belle que j'ai vue depuis donc 50 ans tout juste. »
Mais c'est vrai
mais c'est son avis.
Non, mais je peux comprendre ce qu'il dit, parce que quand tu regardes les deux demi-finales, mais c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé. Je suis pas sûr qu'on réalise quoi. Je veux dire, si on reprend toutes les demi-finales des 10 dernières années,
j'ai mon petit cœur qui bat. Non mais
je suis pas persuadé qu'on retrouve de tels scénarios. Ce que je peux dire, c'est que peut-être au niveau du jeu, peut-être qu'on trouvera des matchs d'un meilleur niveau, mais au niveau des émotions, on n'est pas loin de l'Everest.
Mais on a du mal à réaliser parce qu'on a eu Tottenham Manchester City en quart et parce qu'on a eu Manchester PSG en huitième. C'est aussi ça le truc, c'est que à chaque tour, t'as eu un truc de fou.
Mais oui. Et ce qui est excitant, c'est de se dire que même la finale, même s'il y a 3-0 à la 88e, bah c'est peut-être l'autre équipe qui va gagner, parce que c'est dingo, on vous le dit, cette saison.
Moi, j'ai peur que la finale soit décevante. C'est juste une intuition. Ouais,
je crois qu'on
vous le sentez un peu comme ça.
Martin,
on n'aura peut-être pas le 3 partout d'Istanbul en 2005, mais moi, ce que je voulais dire sur l'aspect rafraîchissant, c'est qu'on s'était un petit peu peut-être habitué ces 4-5 dernières années à faire tourner la roulette des grands clubs et à toujours avoir les mêmes en demi-finale. On avait au choix le Barça, le Real, la Juve, l'Atlético et le Bayern. Donc là, vous changez un petit peu, ça fait du bien, et sur le terrain surtout les performances et les matchs, la qualité des matchs et des retournements de situation qu'on peut voir fait beaucoup de bien.
Elle va se jouer sur quoi cette finale?
Elle va se jouer au mental. C'est, on parle de Tottenham ce soir, le vrai boulot de Pochettino, c'est pas maintenant qu'il va leur apprendre à faire des passes ou à tirer des coups francs. Ce qu'il va leur expliquer, c'est surtout ne pas croire qu'on l'a déjà gagné parce qu'on a réussi un scénario invraisemblable contre l'Ajax en demi. Essayer un maximum de cloisonner, parce que on disait ça déconcentre les mecs de l'Ajax, le téléphone a sonné. Je pense que du côté de Tottenham, entre Son, entre Eriksen, entre Kane, des propositions, il y en a aussi quelques-unes. Donc ça va être fermer les yeux, fermer les oreilles à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je vais pas dire vivre en autarcie, mais se concentrer uniquement sur ce qui se passe sur le terrain. À ce niveau-là, d'abord du jeu et à ce niveau-là de la saison, ça se passe dans les têtes. Hein. C'est comment tu conditionnes ton équipe, parce que dans le jeu, ils ont tout montré cette saison, à la fois dans le positif et dans le négatif. Maintenant, c'est sur les ressorts psychologiques qu'on s'appuie. Hein.
On rappelle qu'il pourrait y avoir deux finales 100% Première Ligue cette saison en Coupe d'Europe. On n'a pas le temps de les aborder là maintenant.
On aura dans les semaines à venir, on aura le temps, j'espère.
Chelsea-Francfort, un partout à l'aller en Allemagne. Valence-Arsenal, 3-1 pour les Gunners. Là encore, ballotage très très favorable. Et la Ligue Europa est un peu moins renversante cette saison que la Ligue des Champions.
Ballotage favorable pour Chelsea. Après, Arsenal... à l'extérieur, parfois, ils peuvent être fébriles. Ils ont répondu présent la dernière fois face à Naples, le tour précédent, où ils ont été bons à domicile et à l'extérieur. Mais attention quand même à Valence.
Attention à Valence. Un avis rapide sur cette demi-finale de demain.
Les clubs anglais partent bien, surtout pour Arsenal. C'est quand même compliqué de se qualifier en Ligue des Champions via le championnat. Donc, il y a un double enjeu pour eux. Donc, à mon avis, ils vont mettre tapis sur les demi-finales et tout donner là.
À suivre ces demi-finales, bien sûr, retour de la Ligue Europa, ce sera ce jeudi soir. Il n'y aura pas de deuxième émission, mais il y en aura une quand même, à 15h10, bien sûr, et on sera toujours là. Je vous propose de faire une petite pause, de nous retrouver dans quelques secondes, et je vous propose, pour faire cette pause, d'écouter la joie recueillie par David Finzel, il est encore là, David, dans un pub du côté de Tottenham, c'est donc à Londres, au moment de la but qualificatif de Lucas Moura. On écoute ça.
Radio Foot International.
Olivier Prond.
À Radio Foot, la suite avec Frédéric Piquion, Bruno Constant, Shérif Guémour. Passer à autre chose, bah finalement pas tellement. On va rester sur la Ligue des Champions. On continue à en parler. Mais côté réforme, cette fois, ça n'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission. C'est au moins la troisième ou quatrième fois et ça n'est pas fini. Elle est annoncée pour 2024. Elle fait peur, à raison, cette réforme. Et c'est ainsi. Avec nous en direct de Madrid, Pierre Chaperon. Bonjour jeune homme.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Ah, on vous entend parfaitement, fort et clair. Vous avez progressé techniquement. Mon ami. D'abord, Pierre, un mot sur cette humiliation subie par le Barça hier. Sentiment et écho à Madrid, hein, forcément. On se réjouit ?
Non, pas forcément, mais on se pose maintenant des questions sur ce Barcelone-là. Hécatombe pour Marca, tragédie pour As. La presse est dans son rôle ici à Madrid, c'est-à-dire qu'elle encense quand tout va bien et elle descend six pieds sous terre quand tout va mal. Messi est remis en question alors que c'était le héros la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit que Valverde c'était une très très bonne idée de d'avoir renouvelé son contrat jusqu'en 2020. Et ben maintenant, on parle d'un ultimatum contre Valverde que s'il ne gagne pas la Coupe du Roi, il pourrait être destitué en fin de saison. C'est le quotidien AS qui en parle. Bref, la presse madrilène est dans son rôle de poser les questions après cette débâcle hier de Barcelone du côté de Liverpool. Pour les supporters, on est quand même un petit peu content. On avait peur que s'ils gagnaient la Ligue des Champions, les supporters barcelonais iraient du côté de Cibeles, là où le Real a l'habitude de fêter les titres, et iraient fêter cette sixième Ligue des Champions. Bon, ça n'arrivera pas, donc.
Le quotidien sport, pour terminer, a mis dans sa une ce matin le plus grand ridicule de l'histoire. On rappelle que la finale le 1er juin, elle sera chez vous. Vous y serez d'ailleurs, j'espère, sans doute, au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético. Ce sera la première finale sans club espagnol depuis 2013. Avec un peu de chance sur Pierre Chaperon.
De l'affaire en Espagne.
Ah oui, c'était Dortmund-Bayern.
Oui, ça doit être ça, c'est ça, Dortmund-Bayern. Vous y serez, Pierre ?
Oui.
Oui. Vous nous filmez tout ça. Alors, sinon, cette réforme, Pierre, souhaitée par les clubs les plus riches, pour l'être encore plus, hein, parce que c'est ça le fin mot de l'histoire, l'idée est de passer de 8 poules de 4 à 4 poules de 8, de 6 journées de phase de poule à 14, des matchs le week-end, et en gros, les 6 premiers de chaque poule qualifiés pour la saison suivante. Hein, je résume comme ça. Les dirigeants de clubs étaient réunis hier à Madrid, pas tous d'accord, hein, loin s'en faut. Le chef de file de la fronde anti-réforme, c'est Javier Tebas, le patron de la Liga. On l'écoute à votre micro, Pierre, et puis on vous écoutera, vous, juste après.
Il ne peut pas y avoir de réforme s'il n'y a pas d'accord avec les ligues. Le football européen n'est plus le même qu'il y a 10 ans. L'industrie du football est totalement différente. Nous devons nous adapter à l'importance économique qu'a le football dans chaque pays. Et le rôle de toutes les ligues doit être plus grand parce que les championnats domestiques sont très forts. Dans tous les pays, c'est cette compétition qui est la plus importante.
Voilà pour Javier Tebas, le patron de la Liga. Alors Pierre, pourquoi les dirigeants de la Liga et des ligues en général, hein, c'est pareil pour la Ligue 1 et une bonne partie de la Première Ligue, enfin les grands championnats, pourquoi ils ont peur ?
Parce que en fait, c'est économique, cette peur. Il y a un audit qui a été fait par une célèbre agence qui s'appelle KPMG, un audit indépendant, dit-on, qui chiffre à 800 millions d'euros de pertes par saison pour la Liga et une perte de 45% de la valeur des clubs. En plus de ça, pour l'exemple de la Liga, puisque la réunion se passait à Madrid et que des chiffres ont été donnés, la Liga... C'est tout un écosystème. Ceux qui connaissent un peu le Bernabéu, qui sont allés dans ce stade, quand il y a un match au Bernabéu, c'est tout un quartier qui est en effervescence, qui marche, des restaurants qui marchent, des milliers de tables avec plein d'écharpes, de maillots. Donc c'est remettre tout ça en cause. Et ça, c'est un énorme problème pour la Liga, qui tente de se développer, qui veut se développer et qui voit une nouvelle pierre dans son jardin, à savoir la Ligue des Champions.
Et pour information d'ailleurs, la tour de KPMG, la boîte qui a fait cet audit, elle est juste à côté du stade Santiago Bernabéu. Ils sont bien placés en Angleterre, c'est le même fond de cloche, peu ou prou. On vend bien la Première Ligue, plusieurs milliards à l'export. Elle se vendrait forcément moins avec cette réforme de la Ligue des Champions.
Moi, je n'y crois absolument pas, parce que je ne vois pas l'intérêt des clubs anglais d'aller dans cette Ligue.
Mais bien sûr, ils ne gagneront jamais
autant d'argent qu'en Première Ligue, et la Première Ligue est beaucoup plus forte que la Ligue des Champions. Et je comprends pas il y a une peur qui s'installe parce que beaucoup de propriétaires de clubs anglais maintenant sont américains. Et le modèle de ces propriétaires américains, c'est quoi? C'est les franchises NBA ou de la NFL avec un championnat
fermé, et on y
exactement
va avec cette réforme
exactement
de Ligue des Champions.
Il y a quand même fermée cette crainte de voir des propriétaires qui veulent faire plus d'argent se diriger vers ce type de ligue. Mais moi, j'y crois pas. Le public ne suivra pas cette ligue.
Quelle était l'ambiance hier à cette réunion, Pierre ?
C'était assez studieux, ça a beaucoup travaillé, ça a donné beaucoup de chiffres, comme on en parlait juste à l'instant. On a par exemple parlé de l'impact financier de la Ligue des Champions sur les 12 meilleures équipes depuis que la C1 est Ligue des Champions. Alors ça n'a pas été aussi charmant qu'ont bien laissé l'entendre le directeur général de la Ligue nationale de foot français. Pas mal d'invectives, selon nos informations. Notamment des prises de bec entre Agnelli et le reste des clubs. Agnelli, c'est le président des clubs les plus riches du monde qui veulent cette nouvelle réforme.
C'est le patron de la Juve.
C'est le patron. Et c'est aussi le patron de la Juve. Mais hier, il venait en tant que président de l'ECA, qui est l'organisme qui veut cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Agnelli, donc, était bien là, mais il a parlé que 2 minutes. Donc, il a exposé. Il n'a pas servi à grand-chose. Moi, je l'ai croisé dans le hall.
Il vous a reconnu?
Il est un peu... il m'a passé le bonjour. D'ailleurs, il vous passe le bonjour.
Oui,
aussi,
j'en attendais pour moi de lui. Dites que j'ai perçu le virement,
non,
ce mois-ci.
Non, mais plus sérieusement... D'accord, ça sera passé. Donc, plus sérieusement, pour revenir sur cette réunion, Agnelli, vraiment, quand je l'ai croisé dans le hall de l'hôtel, c'était vraiment visage assez fermé. Il est parti avec Edwin van der Sar, qui, bon, j'ai pas l'impression que ça a été aussi clément qu'on vient de laisser le croire les participants à la conférence de presse juste après.
Frédéric, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, j'ai une question. Quels sont véritablement les critères pour faire partie de cette nouvelle réforme de Ligue des Champions au niveau des clubs?
C'est-à-dire
quels sont les critères
pour l'instant c'est assez vague,
ouais.
C'est assez vague. On a surtout parlé d'argent, on a surtout parlé de ligue fermée, mais on n'a toujours pas abordé la première qualification. La première,
oui, parce que c'est celle qui importe. On l'a dit, il y a à peu près 6 équipes sur 8 qui se qualifieront pour celle d'après. Donc après, les places seront extrêmement limitées.
Exactement.
Est-ce que l'Ajax aurait la chance de faire un parcours comme il le fait cette année, comme elle le fait cette année dans cette réforme? Pas sûr, parce qu'on ne sait même pas si l'Ajax aurait le droit d'être dans la compétition. Shérif, un mot?
Oui,
Pierre Houllier.
Non, mais par exemple, pendant la conférence de presse, ça a été donné l'exemple de cette année où on a Francfort, on a Atalanta et on a Retafé qui ne sont pas des cadors financiers qui peuvent se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.
Ouais.
Est-ce que ça sera sur des intérêts sportifs que les premiers qualifiés pour la première nouvelle Ligue des Champions seront qualifiés? Ça, c'est une autre question qui n'a pas encore été abordée. C'est assez flou.
Shérif ?
Ouais, je vais répondre indirectement à la question de Frédéric. Cette organisation qu'on appelle l'ECA, elle a un antécédent. Elle est pas tombée de la dernière pluie avant-hier. Rappelez-vous, il y a à peu près 15 ans, début des années 2000, il y avait le G14 qui est passé G18. C'est-à-dire déjà la réunion de tous les plus grands clubs qui se sont adjoints pour déjà réformer la Ligue des Champions. Donc il y a quand même comment ça s'appelle un antécédent. Deuxièmement, là je m'adresse à Bruno. Tu sais Bruno, les publics ne suivront pas. Le public, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les droits télé. Et peut-être, moi je pense que c'est la stratégie qu'il y a derrière. C'est une stratégie médiatique planétaire. C'est-à-dire que eux, peut-être, qui tablent sur le fait qu'ils vont avoir vendre des droits télé au monde entier. Parce qu'il y a encore des nouveaux marchés à conquérir. On n'a pas encore épuisé tous les marchés, les marchés émergents.
En Asie. Et si ton stade ne fait pas le plein, comment tu fais de l'argent ? Parce que c'est le cas, par exemple, sur les matchs de poule en Angleterre. Ouais. Les matchs de poule de Ligue des Champions, les clubs ne font quasiment plus plein.
Il y aura toujours un public. Il y aura toujours un public.
Faux. Il n'y aura pas toujours un public. On le voit déjà avec la Ligue des Champions d'aujourd'hui.
Sincèrement, on s'en moque un peu. Il y a déjà plus trop d'ambiance.
Non, tu ne peux pas écarter l'équation les supporters.
Le football, c'est quand même d'abord l'ambiance dans les stades. Ben oui, alors que les dirigeants, les hauts dirigeants s'en moquent, c'est une chose. Mais après, on peut créer un désamour. Juste,
tu feras jamais sans public.
On retourne à Madrid. Est-ce que cette réunion a été un succès pour l'European League, là, cette association des clubs?
Oui, clairement, parce qu'il y avait 244 clubs présents et il y avait même des clubs qui sont présents, qui font partie de l'ECA, l'association, donc qui veut cette nouvelle Ligue des Champions. Et il y avait, alors que Agnelli leur avait conseillé de ne pas y aller. Donc c'est un véritable désaveu pour Agnelli et un succès pour l'association de ces clubs, la fameuse European League.
Et maintenant, la suite des événements, Pierre?
Donc il y a la réunion aujourd'hui à Lyon avec le comité exécutif de l'UEFA et le
on
président.
On n'a pas encore les conclusions, on ne sait pas ce qui s'est dit encore.
On ne sait pas encore ce qui s'est dit. Et il y a des réunions qui vont s'enchaîner, dont une à Malte au mois de juin prochain. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais hier, quand même, il y a eu une sorte, pas une sorte de coup d'arrêt, ça serait peut-être un peu trop fort de dire ça. Mais là, il y a clairement un avertissement pour les clubs les plus riches. Il y a les ligues qui sont contre cette nouvelle version. Il y a beaucoup de clubs qui sont contre cette nouvelle version.
Et un porte-étendard qui s'appelle Javier Tebas, qui est quand même pas n'importe qui.
Voilà, exactement. Oui, parce que il est très fort en communication, Javier Tebas. Et hier, les phrases qu'on a retenues, c'est il faut arrêter avec ça et il faut nous donner un peu plus de pouvoir dans la gouvernance du football européen. C'est Javier Tebas qui signe ces deux phrases. Et Tebas, c'est quand même quelqu'un qui a bien remonté le niveau de la Liga, qui a donné une internationalisation au championnat d'Espagne. Je pense qu'il aura la même énergie pour se battre pour son championnat au sein d'une association européenne.
Merci Pierre Chaperon. On va vous permettre d'aller dormir un peu parce que vous avez des grosses journées en ce moment. On vous a entendu dès ce matin sur l'antenne des RFI de très bonne heure. Hier soir aussi, vous avez, n'oubliez pas, un titre à amener Roger Federer à remporter le titre dimanche à Madrid. Hein. C'est une autre mission qu'on vous confie en dehors du football. Donc faites ce que vous pouvez, Pierre. Mais on compte sur vous.
Elle n'est pas prévue celle-là, mais pas de souci. Avec grand plaisir.
Allez, à très très bientôt. Je voudrais juste, avant de vous redonner la parole, cher Yves Guémot, Frédéric Piquion, vous avez joué cette Ligue des Champions. Vous savez ce que c'est. Cette réforme, elle vous inspire quoi ?
Beaucoup d'interrogations, finalement, parce que, comme vous l'avez très bien dit, comment les clubs vont se qualifier ? Est-ce que ça sera les clubs les plus riches qui vont la faire ? Alors, aujourd'hui, est-ce qu'un rerun qui est racheté par un Américain ou par le Qatar, ils vont le faire parce qu'ils auront 500 millions de budget ? Voilà, il y a plein d'interrogations qui, pour moi, qui...
Ça sent l'argent plus que la promotion du foot.
Bah oui, parce qu'après, comme Chérif, il a dit, il y a, voilà, le marché asiatique, le marché indien, le marché sud-américain.
Il y a des milliards
en jeu, finalement.
10 secondes, Chérif.
À la question, à quoi sert un président de l'UEFA? C'est la question qu'on se posait quand Michel Platini a été élu. Là, maintenant qu'on a Seferin, on peut se reposer la question. C'est une question pertinente.
C'est la fin de cette deuxième version de Radio Foot en ce mercredi 8 mai. Merci messieurs d'avoir été avec nous, tous les messieurs du jour. Rendez-vous demain, jeudi, 15h10, temps universel. On reparlera de la Ligue des Champions, de la finale, avec cette fois Habib Bey, Carlos Bianchi, Dominique Sévrac. D'ici là, David Finzel, Laurent Salerno, bah faut aller au dodo.